Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bonsoir, vous êtes sur le 106.3, radio Fréquence Paris Pluriel. Dans Zoom Écologie, on s'intéresse au sujet d'actualité des luttes écologiques. Et dans Zoom Écologie, de cette fin du mois de novembre, nous allons nous intéresser à la fiction comme arme de propagande. Mon arme de propagande à moi, qui veut développer une écologie critique et radicale, et l'arme de propagande également de ceux qui veulent développer une écologie libérale, une écologie des pistes cyclables, une écologie qui ne dérange pas, qui ne dérange surtout pas la bonne marche du capitalisme, voire la propagande d'une écologie fasciste, parce que raciste, classiste et autoritaire. Le monde de la fiction n'existe pas en dehors de nos sociétés, il en est bien au contraire le produit. Mais les fictions sont aussi des laboratoires où s'inventent nos futurs. C'est pourquoi un travail sur l'hygiène de nos imaginaires s'impose, pour moi, et je vous propose de m'accompagner. Cette thématique, elle rejoint, ou elle prolonge, le travail entamé par la commission Récits des naturalistes des terres que vous avez pu entendre lors de l'émission de Zoom Écologie de septembre. Zoom Écologie s'écoute en direct tous les jeudis soirs, mais Zoom Écologie, ça se réécoute aussi à l'infini, en rediffusion depuis zoom-écologie.net. N'hésitez pas à aller redécouvrir ce projet des naturalistes des terres. Ce cycle fiction et écologie se poursuivra la semaine prochaine avec un autre type de format, un plateau et des invités. Et ce soir, pour commencer, je vous propose une sélection de 1 heure de plusieurs créations sonores. Elles portent toutes un regard écologico-critique, stimulant, espiègle ou touchant, que ce soit par leur fond, par le fond de leur histoire ou que ce soit par leur procédé d'écriture. Car oui, quoi écrire dans une fiction écologique ne me suffit plus, je veux aussi me poser la question de comment écrire et avec qui. Si la fiction est un laboratoire où s'inventent nos futurs, alors l'accès à ce laboratoire est un sujet et un espace qu'il faut se réapproprier. C'est pourquoi ce soir, vous entendrez au milieu de toutes ces voix d'adultes, quelques voix d'enfants. Leur histoire de ce soir n'est pas une histoire d'écologie radicale, mais écrire avec eux des histoires qui leur ressemblent pour continuer à imaginer avec toutes les nouvelles générations présentes et à venir, et non pas construire contre eux des histoires pour demain. C'est comme ça que je veux occuper ce terrain de lutte qu'est pour moi la fiction.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Le collectif Désorceler la Finance, qui inaugure donc les écoutes de ce soir, se décrit lui-même comme un laboratoire sauvage de recherche expérimentale composé d'artistes, d'activistes et de chercheuses déterminés à nous désenvoûter de la finance, à nous libérer de la paralysie qui nous saisit lorsqu'il faut penser son rôle dans la société sur le logement, la santé, le travail, l'alimentation et l'écologie également. Entre rituels de désenvoûtement de la finance, cartomancie, marche et infiltration, le collectif a notamment produit cette fiction radiophonique, l'audioguide du cabinet de curiosité économique, dont nous nous apprêtons à écouter les 3 chapitres. Cette fiction est l'un des produits de l'exposition du cabinet de curiosité de l'économie qui offrait l'occasion d'une initiation au rituel de désenvoûtement de la haute finance, à grand renfort d'amulettes griffées Goldman & Sachs, effigies encravatées et captation audiovisuelle des rituels de magie noire du CAC 40, l'exposition invitait à rentrer dans la ronde, à alimenter de son porte-monnaie le grand feu de joie et à reprendre les rênes de l'économie. Je vous laisse écouter l'audio guide.
Chapitre 1. Sur les ruines du capitalisme. C'est un matin de février que tout a commencé. Un matin de février 2127. Sans ce matin, il n'y aurait pas le musée. Vous ne seriez pas là et moi non plus. Le 12 février 2127, pour être précise. Camille Fougère, dite Cam la Pioche, dite aussi Cam, cheminait à travers la grande forêt wallonne avec son matériel de capitalistologie. Cam était une capitalistologue renommée, la meilleure de toutes les zones sorcières autonomes de Wallonie, de Belgique, de Francie et de Germanie. Elle cheminait quand elle tomba sur une structure en béton nu. Elle sortit sa pioche, sa pelle, et commença à déblayer le site. Après 6 mois de fouilles, elle parvint à établir un certain nombre de faits, extrêmement bien conservés dans les siècles grâce aux fumigations de pesticides, désherbants et autres produits caractéristiques de l'ère capitaliste tardive. Les ruines de béton témoignaient de la présence ancienne de ce que l'on appelait à l'époque un centre commercial. Ses recherches ultérieures établirent que le lieu portait le nom de « Centre commercial Décathlon, et qu'il avait été construit essentiellement à partir de tôles ondulées, de béton et de moquettes en plastique, dans un style typique du low-cost début 21e. Il n'y avait pas de meilleur endroit que ce bâtiment capitalisto-tardif pour installer le musée du capitalisme tardif, dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Outre l'intérêt historique du centre commercial en lui-même, le musée se dresse au milieu d'un site archéologique très riche en artefacts d'époque. En janvier 2142, près d'un siècle après la chute du capitalisme tardif, la petite équipe s'est constituée pour créer cet espace. Elle est parvenue à rassembler une collection exceptionnelle de 32 273 artefacts d'époque auprès d'historiens, de capitalistologues et de collectionneurs de tous les continents. C'est peu après que je suis arrivée. Moi, c'est Tiffaine Montès, dite Tiff la mouche, dite aussi Tiff. En fait, j'y suis arrivée il y a 3 ans tout pile. Faites le calcul, 2147-3, je suis arrivée en septembre 2144. Je suis chargée de mission au musée du capitalisme tardif, en charge des visites guidées, des archives indéchiffrables et des vieux trucs déterrés. Ça fait longtemps que je prépare cet audio guide et j'ai prévu de parler de pas mal d'artefacts pendant la visite. 32 273, très exactement, si vous avez un peu de temps devant vous. Je commence avec mon préféré, le B-2980-14, aussi intitulé Chariot rouillé. Vous le voyez ? Je parle du chariot avec les algues, l'une des premières pièces du musée. Des chariots de ce genre ont été retrouvés systématiquement à proximité des ruines de centres commerciaux, laissant supposer qu'il y avait un usage. Et maintenant, fermez les yeux. Imaginez-vous dans la peau d'un consommateur capitaliste tardif. Vous vous trouvez en pleine apocalypse, à une date quelconque de la période, par exemple. Je ne sais pas. Quelque part aux alentours de septembre 2020. Vous êtes là, vous portez des vêtements à base de tissus plastiques cancérigènes, vous assistez avec impuissance à la destruction de la plupart des formes de vie terrestre, vos projets d'avenir sont indexés sur votre notation de crédit. Vous y êtes ? Parfait. Il est entre 9h et 19h. Les allées du centre commercial sont remplies d'une centaine d'individus qui poussent des chariots en fer rouillé. Vous-même poussez un chariot. Pourquoi ? Dur à dire. Sur le sujet, j'ai seulement recensé les recherches d'une certaine Marcella Noisette, dite Céla Lanois, dite aussi Céla. Capitalistologue et cultivatrice de noisetiers d'une friche de Francie du Nord. Céla note qu'en se munissant du chariot, le consommateur capitaliste au tardif insérait une pièce de monnaie dans le boîtier en plastique. Céla affirme que le chariot ferait partie d'un rituel superstitieux, l'insertion de la pièce protégeant contre les forces maléfiques lors de la déambulation dans le centre commercial. Par exemple, contre le chômage, le surendettement, l'arnaque. Attendez, pour que la mise en situation soit parfaite, je vais vous faire écouter un truc.
Je suis en train d'archiver des documents audio. J'ai déblayé les sous-sols du musée pour mettre les bandes magnétiques qu'on déterre. Il faut juste que je retrouve la bonne bande. J'ai déjà rassemblé 8473 bandes magnétiques, donc c'est plutôt compliqué.
Ah, j'y suis. Écoutez. Ah mince, non, c'est pas le bon enregistrement. Attendez, j'essaye un autre. Ah, peut-être que...
Billions and 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 billions...
Mince, ça non plus. Attendez encore. Ah, voilà. Exactement ce que je cherchais. C'est émouvant, hein? On dirait qu'il cherche à communiquer avec nous. Bon, je passe à l'artefact suivant, le W-1263-02. On avance, il ne nous en reste plus que 32272. J'aime beaucoup celui-là. Il s'intitule « Pylône en ferraille ». Vous voyez les pylônes ? Parfait. Alors, du temps du capitalisme tardif, ces pylônes portaient le nom de « antennes de tradingue ». De « trading », haute fréquence. Bon, quoi qu'il en soit, ces artefacts nous ont été ramenés l'an dernier de fouilles archéologiques en Amérique. C'était en juin 2146, lors d'une expédition sur l'île engloutie de Manhattan, au large de la New Yorkie. L'expédition était menée par Archibaldine Wollstonecraft, dite Archie Laughlin, dite aussi Archie. Une vraie exploratrice. La fille la plus dégourdie de toutes les zones sorcières d'Amérique. D'ordinaire, les gens du coin évitaient l'île engloutie de Manhattan à cause des matières bizarres qui remontaient à la surface. Mais c'est là qu'Archie se rendit avec son voilier. Alors que le voilier arrivait à la verticale du site capitalistologique sous-marin de Wall Street, elle découvrit une espèce de tour en verre à moitié immergée. Au sommet de la tour se trouvaient les pylônes. Elle en préleva une dizaine, autant que le voilier pouvait contenir, et les ramena ici, au musée du capitalisme tardif. Dans la collection, on avait encore des vieilles génératrices à électricité avec quelques restes de pétrole. Écoutez. Si bien qu'on a mis en route les pylônes et qu'ils ont commencé à biper dans tous les sens. Après quoi, les historiens et capitalistologues du coin se sont écharpés sur le sens des bips et des pylônes. D'après certains, je parle des professeurs Betty Wolf, Léa Dédalus et Taccart MacTaccart, les pylônes jouaient un rôle dans des rites en rapport avec les dieux de l'époque dont on a retrouvé les noms gravés partout sur les tiges. Par exemple, le dieu Nazcad, il s'appelait Nasdaq, et aussi Nikkei, Dax, Foot 6500, Crack 40 et j'en passe. Quel nom bizarre pour des dieux, hein. D'autres prétendent que ces tiges servaient à l'organisation de la vie matérielle. Je parle des capitalistologues Simona O'Keefe et Donald McKenzie. Ils affirment que les pylônes s'envoyaient des signaux entre eux, puis les traduisaient en ordre financier qui affectait le mouvement des cargos de marchandises partout dans le monde. Bref, retenez qu'on sait encore peu de choses définitives sur le sujet. Mince, la bande magnétique du premier enregistrement arrive au bout et il me reste encore 32271 artefacts à vous présenter. Avant que ça ne coupe, je dois préciser un truc pour la visite. On n'est pas dans un musée tout à fait ordinaire et il va falloir respecter quelques règles. Sans quoi, ça pourrait s'avérer très dommageable. Pour vous donner une idée, imaginez qu'un envoûtement capitaliste vous aspire l'âme jusqu'à vous faire exploser la tête comme une pastèque. Eh bien voilà, c'est de ce genre de désagrément-là dont je parle. Donc, règle très importante, pas touche aux objets. Ce sont de vrais objets capitalistologiques. Encore plein de pétrole et d'envoûtement de l'époque. Si vous les touchez, vous risquez d'attraper le cancer ou pire, d'attraper des chaînes mentaux du capitalisme tardif. Alors, gardez vos mains dans vos poches, ok ? Chapitre 2. Comment le capitalisme tomba en désuétude. J'aimerais bien savoir ce qui vous a amené à la capitalistologie. Ma théorie, c'est que derrière tout capitalistologue, on trouve une âme cabossée par la vie. La capitalistologie, c'est comme l'histoire des génocides et des écocides. On ne se spécialise pas dans un thème pareil sans de sérieuses névroses. Pour moi, La passion me vint d'un tas de vieilles lettres. Un tas de lettres retrouvées dans un pavillon qui avait appartenu à ma famille. Je veux dire, du temps qu'il y avait des pavillons, le temps qu'il y avait des propriétés et du temps qu'il y avait des familles. Dans la zone sorcière de Wallonie où j'habitais, il y avait une fille qui s'appelait Émilie Montès, dite Mimi la Mouche, dite aussi Mimi. On se croisait de temps en temps et on s'entendait plutôt bien, ce qui était logique vu qu'elle était ma génitrice. Dans la lignée, on s'appelle toute la Mouche, à cause des lunettes, elle-même liée à une myopie qu'on se refilait de génitrice en nourrissonne. Un matin, Mimi m'avait emmenée en expédition au nord de la zone, du côté de la grande forêt liégeoise. On était partis avec suffisamment de galettes de seigle pour tenir une randonnée de 5 jours. On a marché dans la forêt, traversé la Meuse, grimpé sur des collines. Le 3e jour, Mimi m'a dit « C'est ici ». On était face à un palétuvier géant. La Wallonie est couverte de forêts de palétuviers géants à cause du climat tropical favorable. J'ai dit « Ici quoi ?» Elle a pointé du doigt les recoins des racines. Alors, j'ai mis mes lunettes et froncé les sourcils. Il y avait de vieilles pierres sous le palétuvier. En fait, il y avait même un pavillon de banlieue capitaliste au tardif plutôt bien conservé. À part les racines de 3 mètres de haut qui défonçaient les plafonds et les murs, mais sinon, tout y était. Mimi a dit « C'est d'ici qu'on vient ». En fouillant dans la ruine, j'ai trouvé la collection de lunettes de mon arrière-grand-mère. Déjà des lunettes à 9 dioptries. J'ai aussi trouvé un tas de vieilles lettres que mon arrière-grand-mère avait adressées aux lectrices des jours meilleurs. Ce soir-là, quand je suis rentrée à la zone, j'ai dit à Mimi la Mouche, la capitalistologie génétrice, c'est de la capitalistologie que je veux faire. Pour en revenir au musée, la capitalistologie inclut non seulement l'étude de la phase active du capitalisme, époque où il façonnait les continents et les océans en répandant du pétrole partout, mais aussi l'étude de sa chute. Ce qui nous amène aux artefacts J-3227-04 et suivants, aussi appelés cartes de naturalistes. Vous les voyez ? Là, sur les murs. Ce sont des cartes d'époque, première décennie du 21e siècle. C'est la zone de Notre-Dame-des-Landes. Partout sur la carte, les naturalistes révolutionnaires de l'époque recensaient les espèces de la zone à des fins de rituels et potions de désenvoûtement. Petit récapitulatif. Les premiers laboratoires sorciers émergèrent au cours des années 2020. Tout ce que les villes capitalistes au tardif comptaient de sorcières apprenties, d'envoûteurs maladroits et d'alchimistes débutants se mit à converger vers des zones autonomes pour partager des connaissances sorcières. Rapidement, ils firent des découvertes. Par exemple, ils se rendirent compte que les plumes de gypaète barbu faisaient bugger les algorithmes. Mises en potion et lancées contre les data centers, ces plumes rendaient les algorithmes complètement fous. Il y avait aussi les potions de bave de crapaud doré qui asséchaient les gisements de gaz de schiste, ou des potions à base de moustache de loutre qui parasitaient les communications radio de la police. De sorte que les groupuscules révolutionnaires se rassemblèrent autour des zones sorcières et commencèrent à recenser les populations d'animaux sauvages aux propriétés magiques à l'aide de cartes comme celles que vous voyez, afin de fabriquer des potions à grande échelle. Ils firent tant et si bien qu'on en arrive au blob du 3 juillet 2045. Mise en contexte. On est devant la tour Barclay de l'ancienne mégalopole de Londres, aujourd'hui recouverte par le lierre de la grande forêt de Britannie du Sud. Bref, à l'époque, c'est encore le capitalisme tardif. Du verre, du béton et du métal partout. Très chaud. Devant la tour Barclay, une foule révolutionnaire se rassemble. On trouve de tout. Des noirs, des blancs, des zadistes, un trader égaré, une brigade de livreurs sans papier à vélo, des sorcières en colère, une clique d'espions du régime déguisés en militants sociaux-démocrates. Écoutez. Vous entendez le bruit de la foule ? Archives d'époque. Ils ne le savent pas encore, mais les manifestants vont entamer l'un des blobs les plus retentissants de l'histoire. La mère de tous les blobs. Un blob d'une intensité exceptionnelle enseigné dans tous les manuels de sorcellerie. Les blobs des années 2040 sont devenus mythiques. Pas question de faire un musée du capitalisme tardif sans quelques artefacts qui les concernent. Bien entendu, la capitalistologie n'a aucun moyen de savoir avec certitude la force d'un blob près d'un siècle plus tard. Mais on peut s'appuyer sur des indices. Dans le cas du blob du 3 juillet 2043, la capitalistologie dispose de deux types d'indices. Primo, des rapports de témoins. Par exemple, ce témoignage de Patrick Hargreaves, dit Pat le planqué, dit aussi Pat, 78 ans. Le 3 juillet 2045, Pat officiait comme directeur financier de Barclays. Caché pendant 26 ans dans les banlieues de Londres en reforestation, il est capturé et interrogé par les unités de désorcellement de la zone autonome de Brighton au début des années 2090. Extrait d'interrogatoire, archive B-1475-01.
C'était terrible. Terrible. En juillet 2045, avec ma team, je venais de mettre au point de nouvelles value chains qui devaient nous permettre de diminuer de 3 points nos debt-to-equity ratio. Vous imaginez ? C'est alors que le blob a tout détruit. Les PowerPoint, les résultats semestriels, tout avait disparu. Les data centers de Barclays étaient littéralement vides. Tous nos comptes. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu ce jour-là. Mes anciens collègues erraient hagards dans les couloirs, le visage raviné de sueur, en bras de chemise, proférant des insanités anticapitalistes remettant en cause le sens des bilans semestriels. Je décidai de prendre le strict nécessaire, mon smartphone, une gourde, le disque dur de la compta, et de m'isoler en périphérie pour attendre les secours. Qui ne sont jamais venus.
Voilà pour les témoignages. Deuxièmement, le blob a laissé des indices matériels. Les restes de la tour Barclay de Londres ont été abondamment investigués par la capitalistologie. Entre 2127 et 2147, j'ai dénombré pas moins de 12 expéditions visant à excaver différents types d'artefacts. Le blob affecte profondément son environnement matériel. Au moment où le chaudron entre en ébullition, alors que la danse des sorcières et le beat de la musique se synchronisent, de puissantes ondes jaillissent. Les expéditions londoniennes ramenèrent des kilos de petites pièces de cuivre qui témoignent de la violence du blob du 3 juillet 2045. Je parle des artefacts de la série C-2372-01 et suivant, que vous voyez exposés juste à côté. Les interférences sorcières émises furent tellement massives que toutes les pièces de monnaie furent instantanément défacées. Dans un rayon de 20 km, les transformant en vulgaires cercles de métal dénués de valeur. Ce n'est pas tout à fait rigoureux d'un point de vue capitalistologique, mais j'aimerais rajouter un troisième type d'indice. Les lettres de mon arrière-grand-mère. Elles ne parlent pas directement du blob, mais un peu quand même. « Ma chère arrière-petite-fille », commençait le tas de lettres. « Je ne peux pas savoir comment l'ère actuelle se terminera, mais je sais que ça se terminera. » Ça se terminera même plutôt vite que tard. vu comment les forces contradictoires du capitalisme font tout déconner de manière croissante. Il paraît qu'une sorte d'ouragan à base d'ondes sorcières vient de ravager la Britannie du Sud. Je n'ai pas tout compris, les informations parlent de perturbations électromagnétiques ou radioactives, mais en bien plus destructeurs. Si tu veux mon avis, c'est le début de la fin. C'est très bien comme ça. Bisous. Signé, ton arrière-grand-mère. Chapitre 3. Vers nos présents désirables. Je peux vous dire quelque chose ? Je ne sais pas trop si je peux. J'ai l'impression que je peux plutôt vous faire confiance. Vous avez un petit air benêt qui pousse à la confidence. Mais c'est peut-être un piège. Allez, je vous le dis. Je fais partie d'une organisation secrète de chasseuses de capitalistes. Tout a commencé quand j'ai déterré les lettres de mon arrière-grand-mère. Est-ce que je vous ai lu la fin de la lettre ? Oui et non. Je vous ai lu la lettre jusqu'à la fin seulement, il y avait encore un post-scriptum. Je vous le lis. Si tu veux mon avis, c'est le début de la fin et c'est très bien. Bisous, signé ton arrière-grand-mère. Post-scriptum. Mais si tu veux encore plus mon avis, méfie-toi, parce que même quand tout sera fini, ils voudront recommencer. Alors ma très chère arrière-petite, dès que tu me lis, prends tes meilleurs amis et réunis-les, et organisez-vous. Repérez ceux qui veulent recommencer et faites le nécessaire. Je ne sais pas trop ce que ça voudra dire quand tu auras l'âge de me lire, mais j'espère que tu me comprends. Faites le nécessaire pour que ça ne recommence pas. Évidemment, rien de tel que le présage d'une arrière-grand-mère ayant vécu la folie capitaliste tardive pour s'éclaircir les idées. C'est Mimi la mouche, ma mère, qui m'a introduite dans l'organisation. Elle-même avait été introduite par Pétronille Montès, dite Pète la mouche, dite aussi Pète, sa mère à elle. Tous les mardis soirs, on fait des réunions secrètes dans une clairière secrète. Vous prenez à gauche, deux fois à partir du gros palais Tuvier face au musée, et vous êtes dans la clairière secrète. Même si normalement, je n'ai pas le droit de vous le dire. On partage des informations sur la traque des capitalistes du coin entre nous et avec les organisations secrètes des autres zones. On planifie des opérations d'attaque et on recharge nos grenades à blob en cas de coup dur. Car il ne faut pas croire que le capitalisme ait disparu avec les premiers blobs. Des capitalistes épars ont continué d'exister jusque tard dans le blobocène. Le fait est peu connu, mais on continue d'en trouver. Après les blobs des années 2040 et 2050, des groupuscules de gérants de hedge funds et de directeurs financiers s'exilèrent en Amérique du Sud et sur les îles du Pacifique. Il y a quelques mois par exemple, le boulanger d'une zone sorcière autonome d'Amazonie rapporta qu'un groupe de jeunes gens qu'il n'avait jamais vus dans la zone avait cherché à lui acheter du pain. Il précisa avec des billets verts défraîchis sur lesquels il était inscrit dollars.
On met du sel, de la levure, du vin.
Les unités de désorcellerie de la zone finirent par identifier une communauté capitaliste autochtone dans une clairière à 30 km au nord, constituée d'une douzaine de familles d'anciens oligarques nord-américains, recluses dans la forêt depuis un siècle dans l'attente du retour du capitalisme tardif. La communauté continuait de perpétuer le modèle capitaliste. Ses membres étaient contraints de porter les costumes cravates de leur arrière-grand-père dès l'âge de 12 ans, à s'échanger les uns les autres les maigres tubercules qu'ils produisaient contre des dollars dans des salles de marché, à discuter dans un patois capitalisto tardif bourré de termes managériaux. Les services sociaux de la zone prirent en charge les enfants et laissèrent les parents continuer leur existence après leur avoir fait signer une décharge de responsabilité. et ces groupuscules réapparaissent dans un environnement dangereusement insouciant sur la question capitaliste ou tardive. Je parle par exemple de la mode du rétro-capitalisme qui prend dans certaines zones sorcières autonomes décadentes. Le fait de restaurer de vieilles charrettes capitalisto-tardives pour aller plus vite entre certains trajets ou de réparer certaines vieilles machines à pétrole type générateur électrique pour s'amuser. Des faits trop anecdotiques pour inquiéter les unités de désorcellement des zones concernées, mais des événements profondément inquiétants pour qui connaît bien l'histoire. Le capitalisme est un envoûtement très insidieux qui ne demande qu'un terreau favorable pour repartir de plus belle et reprendre possession du monde. Autant d'événements qui imposent une relecture engagée de l'histoire du capitalisme tardif. L'historiographie capitalistologique a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Jusqu'aux années 2120, on pensait que pour éviter de retomber dans le capitalisme tardif, il fallait n'ouvrir le musée qu'à des visiteurs rares et triés sur le volet. Mais sous l'influence de l'histoire sorcière dite « réflexive », développée par des historiennes et capitalistologues des zones de Beure et de Boston-sur-Mer, on en est venu à penser que la meilleure manière de mettre à distance le passé, c'est de déconstruire la manière dont on se le représente. D'où le fait que le dernier chapitre de la collection ait trait aux représentations actuelles du capitalisme tardif. Comment nous autres, citoyens post-capitalistes des années 2140, nous référons-nous à cette période? Comment le folklore post-capitaliste des zones sorcières s'approprie-t-il le capitalisme tardif, soit comme repoussoir, soit comme source d'enseignement pour l'avenir? Dans la même veine, des installations et rituels historiographiques ont été développés pour le musée par la performeuse post-capitaliste Aline Farès, dite Al la Grenouille, dite aussi Al. À l'aide de petits groupes profanes, Al explore la signification du capitalisme tardif, de sa chute et de son remplacement. Invoquant toutes les ressources poétiques et romanesques des zones sorcières autonomes, ces ateliers construisent et mettent en mots des échappatoires fictives au capitalisme tardif. Ces échappatoires sont ensuite consignés sur des feuillets de papier, puis diffusés dans les zones sorcières autonomes afin d'enrichir les imaginaires des peuples de la région. Le but étant de protéger les zones concernées par la circulation permanente de fictions post-capitalistes dans les esprits de ses citoyens. Bon, j'arrive à la fin de la visite. Alors maintenant, voici le plan. Quand vous sortirez du musée, baladez-vous comme si de rien n'était. Faites comme si on ne s'était jamais parlé. Peut-être qu'on se croisera autour de nos zones et de nos cabanes post-capitalistes respectives. Mais si c'est le cas, n'en laissez rien paraître. Reprenez votre apparence de sorcière début 22e. Comme quand vous êtes entrée. Rien dans les mains, rien dans les poches. Avec votre petit air benêt pour qu'on ne se méfie pas. Vous le faites très bien. Mais gardez les yeux grands ouverts. Ok ? Guettez. Dès que vous en apercevez un de louche, restez sur vos gardes. Collectez assez d'indices pour avoir la certitude que c'en est un. Les capitalistes tardifs ne sont pas difficiles à identifier dès lors qu'on les a dans le viseur. Ils ont une fascination mal maîtrisée pour le pétrole, les machines, les cravates, les feuilles de calcul, et ils veulent toujours acheter des trucs qui ne sont pas à vendre. Ensuite, prenez un objet lourd. Marteau, ou presse-papier, ou chaudron de rituel, ou n'importe quoi. Allez le voir. Parlez-lui d'une manière ou d'une autre. Attendez qu'il ait le dos tourné et alors... un gros coup sur la nuque. Tapez plutôt trop fort que pas assez. Les capitalistes tardifs ont la tête dure. puis vous le ligotez. Vous nettoyez vos doigts, vous nettoyez le presse-papier, vous serpillez les traces sur le sol, vous désinfectez sa nuque et vous envoyez un pigeon au musée. Un pigeon adressé à Tiphaine Montès, dite Tif la mouche, dite Tif. Musée du capitalisme tardif, forêt liégeoise, zone sorcière autonome de Flandrie. Après quoi j'arriverai tout de suite et je saurai quoi faire. Nombreuses et bien organisées comme on est, on les aura, ok? On les aura.
Zoom écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Salut Benoît.
Salut Fiona.
On va écouter une création sonore qui s'appelle La Forêt Perdue. Et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu quel est le contexte d'écriture et de réalisation de cette création sonore qu'on va du coup écouter après.
Ouais, du coup, cette fiction fait partie d'une série de fictions sonores qu'on a réalisées avec Louise Brijoschka Dudek et des enfants, dans le cadre d'ateliers menés grâce au parc régional des boucles de la Seine Normande. Donc là, par exemple, sur cette fiction sonore, on était à Corneville-sur-Risle avec une classe de CM2. Et donc, c'était un projet où il fallait qu'on fasse réfléchir un peu les enfants sur leur rapport aux arbres. Donc la thématique de l'année du parc était les arbres parmi nous. Donc en parallèle de ces ateliers, on a mené ça avec 10 classes de primaire et de... Enfin, 8 classes de primaire et 2 classes de collège. Et en parallèle, le parc avait des ateliers le week-end autour des arbres. On n'avait pas forcément de contraintes ou de choses à produire. Donc pour ça, c'était super chouette. Le parc ne mettait aucune pression. Enfin, on n'avait rien à produire définitif. Sauf que bon, bah, nous, on aime bien un peu le défi, quoi. Et après, avec cette première, la première classe qu'on a eue, on s'est dit « Ah, en fait, en une semaine, on peut carrément produire... une fiction, quoi. Et c'est intéressant aussi pour eux, elle et eux, d'arriver à voir, à imaginer en fait tout le parcours que c'est depuis l'écriture jusqu'à la post-prod, quoi. Donc même si on leur faisait pas de montage, c'est moi qui montais en fait les épisodes, souvent le mercredi et le jeudi, quoi. Et on faisait par contre l'enregistrement de la musique pour leur montrer un peu de la création sonore et du bruitage le vendredi, quoi. Moi, je finissais ça, et puis la semaine suivante, on leur envoyait ça à leur prof, maîtresse, maître, pour qu'ils puissent avoir ensuite cette trace de ce super objet. Et du coup, dans la manière d'écrire, c'était assez... souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on passait 2 jours à un peu écrire avec elle et eux, et en gros, comment on faisait... On avait un peu des idées de thématiques, de choses qu'on avait envie de traiter, de voir un peu. Mais surtout, après, en fait, en classe, on faisait un tour de personnages, de lieux. Donc là, par exemple, cette classe, elle fait l'école du dehors. Du coup, on est parti de leur expérience de l'école du dehors pour imaginer une fiction à partir de ça, quoi. Donc l'école du dehors, moi, ils vont raconter rapidement, quoi, dans la fiction, donc j'en dis pas plus.
Nous sommes les enfants de l'école de Corneville-sur-Risle.
Nous sommes joyeuses et joyeux.
Nous sommes parfois agités, parfois très sages.
Nous aimons courir et chanter.
Nous aimons notre salle de classe et nos camarades.
Nous aimons apprendre et nous amuser.
Et aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire véridique. Rien n'a été inventé.
T'es déjà mort de rire. Attends, meurs pas.
Un jour.
Non, d'abord, on doit leur parler de l'école du dehors, sinon ils ne vont rien comprendre du tout.
Ah oui, t'as raison.
L'école du dehors, c'est l'école mais dehors.
Vas-y, précise un peu.
La maîtresse nous emmène dans une salle de classe, dans la forêt, et on apprend tout un tas de choses dans la nature.
Grâce au vent qui souffle sur nos cheveux, grâce à la terre qui colle sur nos bottes, grâce aux châtaignes qu'on ramasse et grâce aux arbres.
Dans notre petit bout de bois, on a nos arbres qu'on a bien observés,
qu'on commence à bien connaître.
Ils sont comme la rose pour le petit prince.
Hein ?
Ben oui, pour vous, ce sont tous les mêmes, mais pour nous, ils sont tous différents.
Ah !
Voilà, maintenant que vous connaissez un peu mieux l'école du dehors, on va pouvoir y aller.
Silence !
Ça tourne.
Un jour, alors que nous marchions tranquillement sur le chemin de l'école du dehors, nous nous sommes retournés et une partie de la classe avait disparu.
C'est vrai que c'était étrange, on faisait moins de bruit que d'habitude.
Bon, attention, arrêtez-vous deux minutes, je voudrais vous compter là, parce que là j'ai l'impression que le groupe n'est pas vraiment... 1, 2, 3, arrêtez de bouger, je voudrais vous compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, c'est pas possible ça. Qu'est-ce... Mais Chanel est louche.
Nous, les enfants disparus, on s'était rendu compte de rien. On avait pris le chemin et on était entrés dans un bois.
Bon, c'est vrai qu'on le trouvait très sombre ce bois et pas très accueillant.
Par terre, il n'y avait pas de fougères, pas de châtaignes, que des pommes de pin partout.
On s'est vite rendu compte que c'était pas notre bois mais un bois de pin, tout aligné, tout bien rangé.
Des allées de pin à l'infini, c'était silencieux et un peu effrayant.
On s'est pris les mains et on a avancé lentement. On cherchait le reste du groupe.
Et puis on a entendu une petite musique.
Salut les enfants !
C'était un papy, il était sorti d'un tronc d'arbre comme ça.
Les enfants, je suis perdue. Je ne connais pas ce bois, ça fait des heures que je cherche la sortie. Pouvez-vous m'aider ?
On s'est concerté, on a décidé qu'on était d'accord pour aider ce papy perdu. Mais le bois était comme un labyrinthe.
Avec le papy perdu, nous les enfants disparus, on a cherché des traces sur les troncs et dans la terre, mais rien.
On n'a rien retrouvé pour nous aider à sortir de ce petit bois. On était fatigués, on avait faim, on était désespérés.
Alors on s'est arrêté et papy perdu s'est assis par terre. Il a commencé à roupiller. Et là, croyez-nous si vous voulez, on a vu une biche
et un loup ensemble.
Les deux animaux se sont approchés. Ils n'avaient pas l'air effrayés. Ils chantaient, je vous jure, ils chantaient. Pas comme des oiseaux, non mais comme des chanteurs de disco.
Ouh, ouh, c'est moi le loup. C'est moi le loup.
C'est n'importe quoi alors.
Mais si c'est vrai.
Une biche et un loup ensemble et qui chantent
n'importe quoi.
Il devait faire un concert, mais il s'était trompé de bois. Il s'était perdu comme nous et comme papy perdu.
Alors, on a continué à errer dans les bois. Nous, les enfants disparus, papy perdu, la biche et le loup disco.
Mais on ne trouvait toujours pas la sortie. Il faisait de plus en plus sombre et tout se ressemblait.
Et là, croyez-nous, on a senti comme des grelons d'abord nous tomber dessus puis des pommes de pin.
C'était un écureuil, le seul écureuil de tout le bois de pin. Il nous lançait des pommes de pin. On l'a bien observé. Il a grimpé au sommet d'un pin et nous a indiqué le chemin. On l'a suivi jusqu'à l'orée du bois. Il nous guidait en sautant de cime en cime.
Papy perdu s'est réveillé et nous a suivis. Mais à la lisière, il s'est arrêté et nous a dit
« Les enfants, merci pour votre aide, mais je suis bien fatiguée. Je vais m'installer sur cette chouche, je vais me reposer un peu. »
On est reparti vers notre bois, en courant, mais quand on s'est retourné, quelque chose avait changé, à l'orée du bois. Plus de papy perdu, mais un immense mélèze.
Pendant tout ce temps, on a cherché nos camarades dans notre petit bout de forêt, mais elles et ils n'y étaient pas.
On a sonné la trompette, on a crié leur nom,
et 10 minutes plus tard, on les a vus.
10 minutes ?
C'était plutôt 2 heures.
Quand ils sont arrivés, elles et ils étaient essoufflés en sueur.
Les enfants disparus retrouvés nous ont raconté leur histoire. Le bois sombre et triste avec tous les pins alignés qui se ressemblent.
Ça devait pas être très rigolo.
Et elles et ils ont foncé sur leurs arbres pour leur faire des câlins. Y faire des cabanes, marcher dans la terre, patauger dans la gadoue.
Au loin, on a entendu des applaudissements et des chansons disco.
On a pris les jumelles et on a vu des biches et des loups, des écureuils, des oiseaux et des coccinelles rassemblés.
Il y avait même un serpent, on n'en croyait pas nos yeux et nos oreilles.
Après cet épisode, on a repris le chemin de l'école en se tenant la main soudée comme des branches d'arbres.
Mais on n'a pas retrouvé le bois de pin.
En marchant le long du chemin, à l'endroit exact du labyrinthe de pin, on a vu...
Vous ne devinerez jamais,
un immense mélèze.
Et on aurait pu jurer qu'il nous a un clin d'œil.
Nous sommes les enfants de l'école de Corneville.
Nous aimons les fougères et les traces des animaux.
Nous aimons la vie et la diversité.
Nous sommes multiples comme nos arbres et nous sommes l'avenir.
C'était La forêt perdue, une fiction sonore réalisée par la classe de CM1, CM2 de Corneville-sur-Isle.
Accompagnée par Louise et Benoît avec les voix de
Bidel,
Serena, Luna,
Matteo,
Hugo,
Julian,
Luca,
Laila,
Mila,
Elsa,
Shalaim,
Manoa,
Ethan,
Alix,
Chanel,
Maëlia,
Elina,
Esteban,
Kali,
Célia,
Mao.
Dans le cadre de Culture Territoire Enfance Jeunesse,
avec le parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Vous pouvez découvrir toutes les créations sonores de cette série réalisée par une dizaine de classes normandes avec ou sous la direction de Benoît Deschaux et Louise Brzeska Dudek. Sur le SoundCloud de Benoît Deschaux, dans l'album intitulé « Parc régional naturel des boucles de la Seine Normande, des arbres parmi nous ». Pour finir cette émission réalisée sous le signe de la fiction, je vous propose l'adaptation radiophonique de la nouvelle « Friction ». Elle est issue du livre « Bâtir aussi » paru aux éditions Cambourakis et elle est signée par les Ateliers de l'Antémonde. C'est un recueil de nouvelles écrit par un collectif constitué de personnes qui se disent elles-mêmes engagées dans les luttes anticapitalistes et féministes. Ils se décrivent comme des ateliers de fabrication d'imaginaires enthousiastes et critiques du complexe techno-industriel, comme des passionnés de la bidouille, recherchant des outils pour subvertir l'état des choses, développer des perspectives révolutionnaires et anti-autoritaires. Il partage avec moi cette volonté d'explorer et d'occuper le terrain de la fiction comme terrain de nos luttes. À l'origine, il s'agissait pour eux d'écrire une préface collective à la réédition d'un ouvrage de Murray Bookchin, anarchiste et écologiste américain qui imagine de petites sociétés rurales autogérées qui n'ont pas d'animosité face aux technologies. Finalement, le projet Bookchin a été lâché par le collectif, mais l'enthousiaste pour décrire comment, par exemple, faire tourner une fonderie dans un monde post-capitaliste a été gardé. C'est en partant de là que les autoristes se sont mis à imaginer des futurs possibles et à faire de la science-fiction. Inventer une utopie parfaite n'était pas une fin, et au contraire, ils ont appelé leur exploration fictionnelle « utopie merdique », soit un monde où on cohabite en faisant face à des résistances, en trouvant des solutions et parfois en n'en trouvant pas.
Lecture de Bâtir aussi, recueil de nouvelles, fragments d'un monde révolutionné, écrit collectivement par les ateliers de l'Antémonde.
En 2011, les printemps arabes ont ouvert la voie à d'autres révoltes. Un mouvement mondial s'étend, c'est l'Araka.
En 2021, les communes libres s'épanouissent sur les ruines du système. Les Arak inventent leur quotidien selon leurs ressources et leurs rêves, bâtissant un monde qui s'espère sans domination, sans exploitation.
Friction. Un jour de juillet 2021, plateau du Vercors, Méaudre. Nesrine. J'ouvre le sac en tissu. Culottes, chaussettes, collants de laine épaisse, t-shirt coloré et pantalon en toile. Le tout dégage un puissant relent de soupe brocoli, pimenté d'un petit soupçon de moisi. Olfactivement, c'est dégueulasse. Pas vraiment simple d'être réparatrice de lave-linge en vadrouille. Mes muscles sont fourbus des 6 heures d'ascension jusqu'à ce bled d'altitude. D'ailleurs, je l'aurais pas cru si loin de l'Anse-en-Vercors. Mais bon, la journée a été ensoleillée et ça m'a permis de profiter d'un horizon montagneux à couper le souffle. Quelle satisfaction en comparaison des paysages urbains saturés d'immeubles. J'ai pu marcher sous le soleil brûlant, suant dans mes fringues encore sales du dernier chantier. La poussière, l'huile et la transpiration m'emplissaient les narines. Tout le long, j'avais gardé espoir de trouver une place dans un véhicule. Mais les deux seuls camions qui m'ont dépassé étaient pleins à craquer, au point que leurs bas de caisse frôlaient le bitume craquelé. Je ne leur ai même pas fait signe. Le lavoir, lui, il se situe au cœur du village, à côté de l'ancienne mairie, là où quelques habitantes m'ont accueilli tout à l'heure. Une toiture nouvellement construite le protège des intempéries. L'eau y scintille, alléchante, et je ne trouve pas le moindre reflet d'algues au fond. Le bassin doit être nettoyé très régulièrement. Les planches, disposées au bord du bac, attendent qu'on y frotte frénétiquement du linge. C'est un endroit tout simple, propre, sûrement bien fréquenté, en tout cas très fonctionnel. Bon, après mes fringues, je devrais lessiver mon corps en entier. Je sens vraiment la charogne. Allez, courage, une culotte pour commencer. Ah ! L'eau glacée me cisaille les doigts.
Ça surprend toujours, hein ?
Oh ! Je sursaute en entendant la voix derrière moi. C'est toi qui m'as surprise, là ?
Désolé, je m'appelle John.
Nasrin.
Ah, c'est toi qui viens d'arriver de Chambé ?
Ouais, j'habite dans la région lyonnaise, mais là je suis passé à Chambéry pour réparer plusieurs machines. Et puis bah, y a des potes, ils m'ont parlé de vos soucis, que vous cherchiez un coup de main, tout ça, pour du dépannage. Alors bah, j'ai fait le crochet par chez vous, avant de rejoindre la grisaille de Villeurbanne. John doit avoir dans la trentaine, les cheveux châtains aux épaules, le genre qui a l'habitude de s'occuper de son linge depuis un moment. Il se déleste de son énorme baluchon d'où pendouille une manche de chemise. Il reprend les yeux brillants.
C'est vraiment génial que t'aies répondu à notre appel. Tu vas réintroduire l'usage du lave-linge à Méaudre. Et crois-moi, avant d'en arriver là, ça a été salement polémique.
Tout à l'heure, j'ai effectivement senti que ma venue n'était pas vraiment appréciée, on va dire. L'accueil avait été cordial, mais quelques personnes étaient aussi restées en retrait. L'air renfrogné, genre. John, au contraire, bah, il me regarde comme si j'étais leur receveuse absolue. Mieux vaut ne pas lui donner trop d'espoir non plus. Tu sais, franchement, je suis vraiment qu'une simple réparatrice. Hein. Ma réplique ne calme absolument pas son enthousiasme. Il pousse un espèce de petit cri de jubilation et enchaîne.
Mais oui, c'est de techniciennes comme toi dont on a besoin. Ce village est un parfait exemple de déséquilibre technique. Une caricature de l'exode urbain non planifié.
Tu veux dire que vous manquez de savoir-faire mécanique ?
À un point, t'imagines même pas.
Faites des chantiers de transmission de pratique, non ? Genre, pour se former, franchement, y a pas mieux, hein.
Ouais, j'aimerais bien, mais pour l'instant, c'est carrément tendu. Ces deux-là, par exemple. On a mis un temps fou pour décider à les construire.
D'un mouvement de tête, il désigne les deux éoliennes qui bouchent le paysage sur notre droite.
Et maintenant, au moindre petit problème de maintenance, on vit une nouvelle crise en assemblée. La faction des primitivistes nous tanne pour qu'on démonte tout. Mais de compter seulement sur le charbon de bois, vraiment, c'était pas viable. C'était monstrueux comme travail, en plus. Il fallait bien trouver un autre système, qui forcément requiert un minimum de travail aussi. Et qui fait peser une nouvelle pression sur le village, ça je le reconnais. On n'est pas obligé d'être dans le psychodrame permanent non plus.
À ce point-là ?
T'imagines même pas, c'est le conflit intersidéral. On passe notre temps à se hurler dessus ou à se bouder. On est à peine 2000 personnes ici, mais si tu oses prononcer le mot « technologie », tu récoltes 2000 avis divergents sur le sujet.
Effectivement, ça n'a pas l'air facile. J'aurais peut-être dû me renseigner un peu avant de monter jusqu'ici. Réparer leur machine ne va sûrement pas les aider à se réconcilier. Oh, tu sais, des fois, ça cache d'autres enjeux. Dans certaines communes, par exemple, j'ai entendu dire qu'elles faisaient venir des équipes de médiation. Comme ça, ça permet d'aider à des sortes de résolutions collectives, en mélangeant le débat de fond et le décortiquage des traumas. Mais John, qui n'a peut-être pas très envie de parler de trauma, réplique sans transition.
On a de la chance aujourd'hui, il fait beau. On voit bien les montagnes. Et si t'as pas de gants, t'as quand même intérêt à pas laver trop longtemps. Hein. C'est qu'avec les engelures, tu pourras pas vraiment réparer nos lave-linges.
Il prend encore quelques minutes pour tirer ses vêtements de l'autre côté du bassin. Puis le contourne pour s'installer plus près de moi, sur une large pierre où il se met à essorer ses affaires. Je continue à frictionner au bord de l'eau gelée. Petite pause pour le regarder faire. Je suis impressionné par cette dextérité et l'énergie qu'il met à taper son linge. Le froid me picote de plus en plus durement les doigts. Mes mains préféreraient lui tendre mes habits plutôt que de replonger dans l'eau. Son silence me fait comprendre qu'il voudrait que je lui parle de mon voyage ou de ma vie. Mais justement, mon voyage m'a crevé. Je pourrais le questionner encore, le faire parler de ce qui se trame ici. Pas sûr non plus de vouloir qu'il s'excite plus longtemps sur le conflit intersidéral, comme il dit. Même si j'ai du mal à comprendre comment ce village a pu rester tout ce temps à un niveau d'électricité si faible, et surtout sans machine à laver. L'engourdissement a fini par gagner mes avant-bras, et ça commence à faire vraiment très mal. C'est le bagne ici, Comment peuvent-ils vivre les mains dans l'eau glacée? Je peux pas continuer là. Après avoir rincé mon deuxième t-shirt, je m'assois, dépité au bord du lavoir, résigné à conserver mes autres fringues crasseuses en l'état. John a déjà essoré la moitié de son tas. Il n'y a pas à dire, il a le coup de main, lui. Ça fait combien de temps que tu vis ici, toi ?
5 ou 6 ans. Avant, j'étais à Grenoble. Mais c'est devenu compliqué. Assez vite, en fait. Les premiers temps de la RACA, c'était l'euphorie, tu comprends ? Alors, j'ai cumulé 4 unités. Une imprimerie, la conserverie du quartier, le groupe d'entraînement à la lecture et la reprise du CHU. On était nombreuses, mais on s'entendait pas sur les choix à faire. On s'est engueulé vachement fort sur l'organisation de l'hosto, surtout sur la maintenance des outils technothèques.
Sur l'informatisation des dossiers des patientes ?
Non, pas spécialement. Comme on avait repassé le réseau en intranet, personne n'était trop à cran sur le fichage.
En même temps, dans un hôpital, t'as quand même rapidement besoin d'un gros serveur, quoi. Sans parler des standards téléphoniques, ça doit être énorme.
Non, c'était pas le problème non plus. Quand je disais technothèque, je parlais plutôt des machines.
Les machines ? Je me sens un peu bête. Comme si c'était la première fois depuis le début de la RACA que je rencontrais une personne impliquée dans un hôpital. Mais John ne semble pas agacé. Il explique juste, tranquillement.
Oui, tu sais, les appareils médicaux bien sophistiqués. Les machines respiratoires, les dialyses, le monitoring cardiaque, les radios, les IRM, tous les outils chirurgicaux, réfrigérants ou simplement de perfusion assistée.
Ah ouais, tous ces trucs qui ont lâché avec la grande coupure nucléaire.
Ouais, c'est ça. Des milliers de morts en quelques semaines. En tout cas, c'est ce qu'on en retient 10 ans après. À l'époque, la polémique avait été vraiment dure. On nous a fait beaucoup de reproches. Mais bon, de mon point de vue, on a fait le maximum, tu vois. Il y avait beaucoup d'idéologie et pas assez de bras. Moi, franchement, ça m'a débordé. J'ai un peu pété les plombs, puis je suis parti à la montagne, du coup.
Ouais, les débuts ont été faciles pour personne. Tu regrettes d'avoir lâché la dynamique à Grenoble ?
Je sais pas, non. Dans l'Antémonde, tu sais, j'avais un boulot vraiment pourri. J'avais passé 4 ans avec un téléphone accroché à l'oreille du matin au soir. J'aidais les gens à recharger leur carte de transport par Internet. Après ça, pouvoir être dehors, voir du monde, me sentir vraiment utile, ça a été une drogue, en fait, au début. Je voulais être partout. Mais je croyais que les désaccords allaient se résoudre plus vite que ça.
Et t'as tenu combien de temps à l'hosto ?
À peine quelques mois. J'ai d'abord lâché les autres activités, les unes après les autres. L'imprimerie en premier, puis le groupe de lecture, parce que ça n'avait pas de sens d'y être qu'une fois sur 5. La conserverie, ça tournait bien, mais comme t'imagines, dès le deuxième été avec la disette, il n'y avait plus grand-chose à conserver. Alors l'hosto a fini par prendre toute la place, ça n'en finissait plus. Je me suis barré avant de vriller pour de bon.
À cause de tous les débats politiques ?
Pas seulement, l'ensemble en fait. Les débats, la pénurie et la foule. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais à Grenoble, on manquait de tout. De médocs, de moyens pour l'entretien des appareils, de compétences médicales. Les gens étaient vraiment dans un sale état. Les blessures, la sous-alimentation. Sans compter la relation très houleuse entre les aides-soignantes et les volontaires d'un côté et les médecins de l'autre. Moi, j'avais fait 2 premières années de médecine avant de me résoudre à bosser par téléphone pour me payer une école d'ostéo que finalement j'ai jamais commencé. Je comprenais un peu le jargon, quoi. Mais ça n'aidait ni mon travail avec les nouvelles, ni avec les toubibs. Et tous ces gens à soigner, des décès tous les jours et nous perdions encore du temps à nous engueuler sur le bien fondé de l'imagerie médicale.
Ouais, t'as fait un peu ce qu'on appelle un burn-out, comme on disait dans l'Antémonde, non ?
Ouais. J'ai fini par faire une erreur qui aurait pu coûter des vies. J'ai craqué et je suis parti.
T'es monté directement ici, à Méaudre ?
Bah ouais. Mais au départ, c'était juste pour faire une pause, tu vois. J'ai réalisé que j'avais pas pris de vacances depuis la fin des congés payés. Je croyais rester quelques semaines, puis ça fait des années que je suis là. La conserverie d'ici était super contente que j'apporte quelques techniques, mises au point dans la cuvette là-bas à Grenoble. Puis fini les blessures par balles. Ici, elles avaient réussi à désarmer à peu près correctement.
Un brin d'amertume résonne dans cette dernière phrase, mais aussi beaucoup de soulagement. Le temps qu'il me raconte tout ça, John est arrivé au bout de son essorage et a tout remballé pour hisser le baluchon humide sur son épaule.
Bon salut.
Je suis son regard qui s'est tourné vers les étendoirs à quelques mètres de l'autre côté de la route. Tant pis pour la fin de ma lessive. 3 culottes et 2 t-shirts me permettront bien de tenir le temps des réparations.
Retrouvez l'intégralité de Bâtir aussi, un livre sous licence Creative Commons, sur antemonde.org. C'était Zoom Écologie et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission de radio en direct. où l'on va discuter théorie, science-fiction et écologie. À bientôt.